Il n'y a peut-être pas de personnage plus inquiétant dans l'avenir prophétique que l'Antéchrist. La Bible est claire sur le fait qu'il est sur le point de surgir. La destruction, la persécution et la mort l'accompagnent à une échelle telle que le monde n'en a jamais vu auparavant et n'en verra plus jamais. Tout porte à croire qu'il est vivant aujourd'hui. De toute évidence, ses outils de séduction sont déjà en place. Ils ont d'ores et déjà un impact sur la vie de la plupart de ceux qui se considèrent comme chrétiens. Serez-vous parmi les rares personnes à le reconnaître lorsqu'il se manifestera sur la scène mondiale? La plupart n'y parviendront pas, mais vous le pourrez. Rejoignez-nous dans cet épisode du Monde de demain, alors que nous révélerons les 7 signes identifiant l'Antéchrist de la fin des temps. Bonjour et bienvenue au Monde de demain, où nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Considérez cette liste d'hommes célèbres, ou tristement célèbres. Ronald Reagan, le roi Juan Carlos d'Espagne. Saddam Hussein, le roi Charles III. Bill Gates, Henry Kissinger et Klaus Schwab du Forum économique mondial. Qu'ont-ils en commun ? Eh bien, chacun d'entre eux a été accusé à un moment ou à un autre d'être l'Antéchrist, annoncé dans la prophétie biblique, ce personnage obscur et mystérieux. Certains de ces hommes sont déjà morts, d'autres sont encore en vie. Pourtant, aucun d'entre eux ne correspond à la description de la Bible. Aujourd'hui, nous allons révéler 7 signes identifiant l'Antéchrist de la fin des temps, tels que détaillés par la prophétie biblique. À quiconque le voudra, ils permettront de reconnaître qui est l'Antéchrist final. Aujourd'hui, parler d'un Antéchrist peut sembler archaïque dans notre monde de merveilles technologiques et de confort moderne. C'est perçu comme une prédication pessimiste et sinistre à une époque qui a délaissé les Écritures et ses prophéties. Mais c'est le contraire d'archaïque. Le temps n'a pas laissé les prophéties derrière lui. Au contraire, le temps a finalement rattrapé les prophéties. Et l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui correspond aux circonstances décrivant la scène de la fin des temps où l'Antéchrist fera son entrée. Par exemple, Matthieu 24 et au verset 22 dit qu'à la fin de cette ère, un cosmocide serait possible à cause de la capacité destructrice de l'homme. Ainsi, il n'était vraiment pas possible d'éradiquer l'humanité que depuis que nous sommes entrés dans l'ère des armes nucléaires. D'ailleurs, certaines traductions de Daniel 12 et au verset 4 décrivent la fin des temps comme une époque où plusieurs courront ça et là et où la connaissance augmentera. Ces paroles anciennes décrivent notre monde moderne dans lequel les voyages internationaux sont monnaie courante et où nous commençons à souffrir d'un excès quotidien d'informations. Non, les prophéties de l'Antéchrist ne sont pas de vieux écrits poussiéreux, sans pertinence à notre époque moderne. Elles ont été écrites pour nos jours, inspirées par le Dieu qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Les avertissements que Dieu nous donne concernant l'Antéchrist final sont d'une importance capitale, parce que sa manifestation sur la scène mondiale entraîneront la mort, la destruction et la souffrance humaine à une échelle jamais connue auparavant, lors d'une période appelée dans les pages des Écritures la Grande Tribulation. Au cours de la vie de la plupart d'entre vous qui regardez cette émission aujourd'hui, l'Antéchrist accédera au pouvoir et séduira la grande majorité de l'humanité, en influençant les hommes et les femmes du monde entier subtilement pour qu'ils acceptent volontairement une contrefaçon démoniaque du christianisme. En fait, cette fausse version du christianisme est déjà présente ici-bas et exerce une grande influence. Beaucoup d'entre vous qui nous regardent en ce moment même sont déjà sous son emprise, ce qui vous rend d'autant plus vulnérable à ce futur tyran. Songez à l'ensemble des moyens de guerre modernes. La capacité de destruction presque illimitée de l'humanité. Au service d'un homme sous l'influence directe de Satan le diable, déterminé à éradiquer le vrai christianisme et les vrais chrétiens. De la surface du globe en veillant à ce qu'il soit remplacé par une religion qui a l'apparence du christianisme et utilise le nom de Jésus-Christ, mais qui représente tout le contraire du christianisme de Jésus-Christ. l'Antéchrist va se manifester. Que vous soyez capable ou non de le reconnaître sera une question de vie ou de mort. La prophétie biblique est claire, la plupart des gens ne le reconnaîtront pas. Aujourd'hui, nous nous concentrons uniquement sur 7 signes spécifiques que vous pouvez utiliser pour l'identifier lorsqu'il paraîtra. Et ce premier signe est celui sur lequel la plupart se méprennent. Selon la parole de Dieu, l'Antéchrist ne sera pas un chef militaire ou politique. L'Antéchrist dirigera en fait une religion, une grande fausse église. Cette erreur vient du fait que beaucoup confondent l'Antéchrist avec la bête de l'Apocalypse. Cette dernière est le chef d'une puissance militaire, politique et économique qui dominera le monde. Cependant, bien qu'ils travaillent ensemble, l'Antéchrist et la bête sont deux êtres distincts. Au chapitre 17 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean rapporte une vision qui lui a été montrée par Jésus-Christ et les anges placés sous son commandement. « Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Il y a beaucoup de choses qui méritent d'être notées dans ce passage, mais je veux me concentrer sur un point particulier. La bête à 7 têtes et 10 cornes, montée par une prostituée, représente l'Empire romain et ses résurgences, y compris la dernière, le mastodonte militaro-économique de la fin des temps. Mais qu'en est-il de cette femme ? Normalement, un cavalier chevauche une bête pour la contrôler et la guider dans ses mouvements. Ici, cette bête est montée ou dirigée par une prostituée. Si vous êtes un fidèle téléspectateur du Monde de Demain, vous savez que nous laissons la Bible interpréter ses propres symboles. La Bible utilise souvent symboliquement des femmes pour représenter différentes croyances ou organisations religieuses. Mais au lieu de la Vierge pure que Dieu utilise pour symboliser son Église, dans des passages comme 2 Corinthiens 11 verset 2 et Apocalypse 19 verset 7 et 8, la femme qui chevauche cette puissante bête est décrite comme une riche prostituée. La fornication, l'adultère et la prostitution spirituelle sont des termes utilisés par Dieu pour décrire l'influence corruptrice du compromis religieux avec des pratiques et des cultes païens, comme mentionné dans Jérémie 3 et Ézéchiel 16. Le système religieux de l'Antéchrist est en fait la prostituée qui chevauche cette bête. Ce n'est pas la bête elle-même. En fait, plus loin dans Apocalypse 17, verset 16, nous voyons que la bête finira par se retourner contre la femme prostituée pour la détruire. Mais avant cela, la prostituée chevauchera la bête, la manipulant, l'influençant, la guidant à son propre avantage. C'est pourquoi l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, verset 1 à 3, parle de l'Antéchrist dans le contexte des faux prophètes, parce qu'il sera le faux prophète ultime, non pas un dirigeant militaire ou politique, mais une figure religieuse à la tête d'une église la plus puissante de la terre. À leur tour, l'Antéchrist et cette église influenceront la puissance militaire, politique et économique et son dirigeant, connu sous le nom de la bête de la fin des temps. Que pouvons-nous comprendre de plus sur le système religieux dirigé par cet Antéchrist ? Cela nous amène au deuxième signe identifiant l'Antéchrist. L'Antéchrist viendra au nom de Jésus-Christ et aura l'apparence du Christ. Dans sa prophétie phare du Mont des Oliviers, donnée dans les environs de Jérusalem et rapportée dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, Jésus-Christ mit en garde ses disciples que beaucoup viendraient en son nom, c'est-à-dire dans le nom de Jésus-Christ, et qu'ils séduiraient beaucoup de gens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Jean parla de la propagation de ce faux christianisme séducteur dès le 1er siècle, en disant dans 1 Jean 2 et au verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, Nous connaissons que c'est la dernière heure. » Oui, beaucoup d'antéchrists avaient déjà sévi au moment où Jean écrivait ces mots, et le christianisme de contrefaçon qu'ils tissèrent, faussement sous le couvert du nom de Jésus-Christ, persiste et domine les églises chrétiennes du monde aujourd'hui. Beaucoup ne comprennent pas que l'antéchrist puisse représenter plus qu'un personnage. Il représente un système de croyance qui semble chrétien, mais qui est en fait une contrefaçon du vrai christianisme. Dans la Bible, Paul parle de ceux qui prêchaient un autre Jésus et apportaient un autre évangile. Ce système est en place depuis l'époque des apôtres, et à l'époque de Jean, de nombreux représentants de ce système, plusieurs antéchrists, opéraient déjà. L'antéchrist final, celui de la fin des temps, sera le point culminant de cette séduction, un grand faux prophète représentant ce faux christianisme, paraissant très chrétien de l'extérieur. Je vous invite à vous reporter à Apocalypse 13, où nous voyons l'antéchrist décrit dans le symbolisme prophétique. À partir du verset 11, nous lisons qu'une deuxième bête monte de la terre. Elle est distincte de la bête à sept têtes qui monte de la mer. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Les Écritures utilisent l'agneau comme symbole du Christ et le dragon comme symbole du diable. Ainsi, ce faux prophète à venir, cet antéchrist final, ressemblera à l'agneau, Jésus-Christ. Il peut sembler bon, compatissant, il peut prétendre enseigner à partir de la Bible. Pourtant, la Bible dit qu'il prononcera les paroles du dragon, le diable. Le christianisme qu'il enseigne est une version tordue du christianisme. Pas le christianisme de Jésus-Christ, même s'il se réclame de son nom. L'un des outils que l'antéchrist de la fin des temps utilisera pour séduire même les sceptiques et les faire adhérer à sa version tordue du christianisme constitue le prochain signe. Il fera éventuellement des miracles et des prodiges surnaturels. Dans Apocalypse chapitre 13, continuons à lire en commençant par le verset 13. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Ce personnage aura la capacité de faire descendre le feu du ciel, comme l'a fait le prophète Élie dans l'Ancien Testament. Comme ce sera étonnant, dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul décrit ce faux prophète à venir au chapitre 2 et au verset 9. L'avènement du sans-loi se produira par l'opération de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Pour résister à l'attrait des signes surnaturels destinés à séduire, la clé est de comparer les enseignements de ce faiseur de miracles avec la vérité divine. Rappelez-vous que l'antéchrist ressemble à Jésus-Christ, mais qu'il parle comme l'astucieux dragon, Satan le diable. Cela nous amène au quatrième signe. Il niera que le Christ continue à venir dans la chair. C'est un point essentiel, mais subtil, facile à perdre de vue. Nous détaillons ce signe crucial dans notre brochure gratuite, mais permettez-moi de le résumer. Cette doctrine de l'antéchrist est décrite dans 2 Jean 1 et au verset 7. Car beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, ne confessant point Jésus-Christ venant en chair, c'est là le séducteur et l'antéchrist. Beaucoup pensent que Jean entend simplement que les antéchrists n'ont pas enseigné que Jésus est réellement venu en chair il y a 2000 ans. Et oui, Jean condamne de telles faussetés. Mais lisez attentivement ce que Jean dit au sujet des antéchrists qui n'enseignent pas le Christ venant en chair. Remarquez qu'ici le verbe est au présent progressif dans l'original en grec. Christ continue à venir en chair. Charles Williams, dont la traduction du Nouveau Testament est louée pour son attention aux détails des verbes grecs dans le texte original du Nouveau Testament, traduit ce passage comme disant que l'antéchrist ne confesse pas que le Christ continue à venir en chair. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que l'Antéchrist n'enseigne pas que Jésus-Christ continue à vivre dans les chrétiens aujourd'hui par son Saint-Esprit. Le même mode de vie qu'il vécut il y a 2000 ans, les aidant à croître dans l'obéissance à Dieu et selon son caractère. L'apôtre Paul l'a expliqué dans un très beau passage. Lisons-le dans Galates chapitre 2 et au verset 20. « Je suis crucifié avec Christ et je vis, non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » C'est pourquoi Paul dit dans Romains 5, verset 10, que nous sommes réconciliés par sa mort, mais sauvés par sa vie. Contrairement à ce qu'enseignent de nombreux faux prédicateurs qui considèrent que le Christ a tout fait lors de sa crucifixion, le Christ vit quotidiennement sa vie dans chaque chrétien converti, l'aidant à croître dans la grâce et la connaissance et à vaincre le péché d'ores et déjà au cours de cette vie. L'Antéchrist niera cet enseignement fondamental tout aussi souvent ignoré. Ceci est directement lié au cinquième signe identifiant l'Antéchrist. L'Antéchrist rejettera la loi divine. Rappelez-vous, nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2 que Paul a appelé l'Antéchrist final l'impie ou le sans-loi. Dieu ne parle pas ici de lois humaines. L'Antéchrist s'opposera aux lois divines. En fait, il remplacera les lois de Dieu telles qu'elles sont révélées dans la Bible par des lois religieuses enracinées dans la tradition humaine et la superstition païenne. Le chapitre 7 de Daniel expose cet effort de l'Antéchrist. Nous voyons ce faux prophète de la fin des temps décrit en détail au verset 25. « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Il espérera changer les temps et la loi. Il changera les temps de culte tels que Dieu les a conçus par une série de fêtes d'origine païenne et il remplacera les lois divines par un ensemble de lois différentes, des lois d'apparence chrétienne. Mais celles-ci ne seront pas basées sur les lois de Dieu consignées dans la Bible. L'Antéchrist instaurera des lois, des credos, des confessions et des traditions d'Église créées par l'homme et il revendiquera l'autorité de pouvoir supprimer les commandements et les lois claires de Dieu révélées dans les Écritures. Les calendriers des églises, avec des fêtes créées par l'homme, l'emporteront sur les jours saints et les fêtes divines que l'on trouve dans la Bible. L'Antéchrist, ce sans-loi à venir, revendiquera une autorité que le Dieu Tout-Puissant seul possède, tentant de changer la loi même de Dieu. Et franchement, beaucoup d'entre vous qui nous regardent aujourd'hui sont déjà affectés par cela. Cela nous amène au sixième signe tragique. L'Antéchrist persécutera les vrais chrétiens. Nous l'avons vu dans Daniel 7, verset 25, où nous lisons que l'Antéchrist opprimera les saints du Très-Haut. Les vrais disciples de Dieu, ceux qui respectent ses lois, ses commandements, ses doctrines, et non les fêtes et les enseignements de l'Antéchrist établis par l'homme. Jésus-Christ a averti qu'il viendra un temps où ceux qui tueront les vrais chrétiens penseront même qu'ils rendent un culte à Dieu, comme il a dit à ses disciples dans Jean 16 et au verset 2. Pensez aux images vues des camps de concentration et aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle des millions de Juifs ont été conduits à la mort. Imaginez maintenant qu'un régime similaire se retourne contre une nouvelle minorité, les chrétiens que Jésus appelle son petit troupeau, ceux qui croient réellement aux 10 commandements de Dieu et à la nécessité d'y obéir. Apocalypse 12 décrit la colère que l'obéissance des vrais chrétiens engendre chez Satan le diable et la façon dont il réagira. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Comment l'Antéchrist accomplit-il cette persécution? Cela relève notre dernier signe. L'Antéchrist attirera l'attention du monde sur la dernière résurgence de l'Empire romain, un monstre politique, militaire et économique, d'une force et d'une puissance telles que le monde n'en a jamais vu auparavant. N'oubliez pas que la femme chevauche la bête. Apocalypse 13 raconte comment le faux prophète influencera les peuples du monde entier à soutenir la bête de l'Apocalypse à venir, et comment l'Antéchrist influencera le pouvoir de cette bête puissante, la résurgence de l'Empire romain à la fin des temps, qui surpassera même la puissance et le pouvoir des États-Unis aujourd'hui. Il orientera la force de la bête contre ceux qui refusent de mettre de côté les lois de Dieu et le véritable culte de Jésus-Christ, ceux qui refusent d'accepter le faux christianisme imposé par l'Antéchrist. Il en résultera une inquisition moderne d'une ampleur effroyable, jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Cette alliance contre nature entre la fausse église et l'État tyrannique dominera le monde dans les temps de la fin qui approche. Cependant, même en combinant leurs pouvoirs, ces entités religieuses, politiques, économiques et militaires les plus puissantes ne feront pas le poids face au retour de Jésus-Christ. Il reviendra pour glorifier ses fidèles disciples et pour établir le royaume de Dieu pour toujours. Alors, que devons-nous faire à ce sujet? Rappelez-vous, le système que cet antéchrist final imposera au monde entier est déjà en vigueur aujourd'hui. Et la plupart sont déjà séduits. Nous n'avons pas besoin d'attendre que ce despote religieux apparaisse sur la scène. Nous pouvons agir dès à présent pour rejeter son système et son faux christianisme. Comme Jésus nous le recommande à tous dans Luc 21 et au verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Oui, Jésus promet la protection à tous ceux qui n'ont pas honte de rejeter le faux christianisme dominant et qui sont prêts à embrasser la plénitude de ses enseignements et de son mode de vie, permettant ainsi à Jésus de vivre sa vie d'obéissance aux commandements de Dieu dans leur vie dès à présent. Merci d'avoir regardé notre émission du Monde Demain. Nous travaillons d'arrache-pied pour vous aider à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Si vous êtes intéressé par l'offre d'aujourd'hui, veuillez cliquer sur le lien dans la description pour obtenir votre exemplaire gratuit. Et si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de nouvelles publications. À très bientôt.